Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Bonjour, je m'appelle Alice Vacher et avec l'agence de podcast Bababam, nous avons décidé de lancer l'empreinte. Nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de PDG de grands groupes, de directeurs de la communication, de la RSE, qui se battent chaque jour pour valoriser l'image, l'empreinte de leur entreprise. Dans cet épisode un petit peu spécial de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Pillard, et non Pillard, comme milliard, ce que tu viens de me dire.
C'est ça.
Le fondateur, enfin créateur de Use It Again. Juste avant de parler de ton projet, j'ai juste envie de parler de ces conditions d'enregistrement assez...
Lunaire.
Assez lunaire, ouais. Alors on est en direct du Grand Palais, mais dans un cube.
On est dans une capsule, exactement, dans le Grand Palais. On a l'impression qu'on va s'envoler.
Degrés, donc je ne sais pas si à la fin on va nous entendre mourir de chaud, mais...
Écoute, pour l'instant, on est bien.
Voilà, bah écoute, voilà. Donc moi, je suis là pour t'écouter. De toute façon, vu la chaleur, j'ai envie de te dire, je ne peux pas faire grand-chose. Bon, déjà, qu'est-ce que tu faisais ici, au Grand Palais ?
J'étais invité par l'équipe de Change Now pour parler d'économie circulaire et témoigner sur notre expérience de Use It Again.
Bah, du coup, tu vas m'en parler aussi.
Exactement. Eh bien, voilà, il y a 4 ans, nous avons... lancer la campagne Use It Again, qui est également un fonds de dotation. Et le projet est né avec la récupération de l'ancien bateau de la navigatrice anglaise Ellen MacArthur, avec lequel elle avait battu le record au tour du monde en solitaire. C'était en 2005. Et ce bateau, depuis quelques années, depuis 7 ans, ne naviguait plus. Il était abandonné sur un quai à Brest.
Il était abandonné, il ne servait plus à rien.
Il ne servait plus à rien, exactement.
Comme un peu les appartements vides qui...
C'est ça, sauf qu'il se détériorait, puisqu'il était vraiment dans un sale état. Et
il n'était même pas visité, donc en fait, c'est même pas une pièce... D'accord,
exactement, donc
c'est l'abandon total.
Ouais, voilà. Et donc, on s'est dit, ce bateau ne peut pas rester dans cet état-là, déjà. Il doit renaviguer, c'est un bateau de légende, c'était un bateau
puis,
très performant.
Ça veut dire quand même que tu étais un amoureux de la mer.
Oui, voilà. Moi, je navigue, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu.
D'accord.
J'ai commencé à naviguer à haut niveau en 2000. Et puis, voilà, toujours très sensibilisé à l'environnement. Et d'ailleurs, en 2000, quand je m'entraînais pour des courses en solitaire, eh bien, l'Erika est passée par là. C'était en Bretagne et a sombré sur les côtes de Belle-Île. Et moi, lors de mes entraînements, je me suis retrouvé avec des boulettes de pétrole sur mon bateau, sur mes voiles. Et c'était absolument inimaginable. Donc, moi, je naviguais. Et ce n'était pas vital, contrairement aux pêcheurs, aux estréiculteurs, etc. Et puis, en fait, on s'est tous fait...
Et c'est là que tu as pris conscience vraiment de...
Ouais, ça a été une étape. Ça a été une étape importante, très clairement.
C'était en quelle année, tu me dis ?
2000.
Ouais, donc c'était quand même déjà... Enfin, même s'il y avait une conscience écologique, là, aujourd'hui, c'est vraiment au cœur des...
Ouais, exactement. De toute façon, tout naufrage est dramatique, bien sûr, pour la faune, la flore, la population, les marins pêcheurs, etc. Donc là, effectivement, ça a été absolument dramatique pour une grande partie des côtes en Bretagne Sud. Et voilà, c'était jusque... un élément déclencheur.
Et t'es d'une famille de marins ou pas?
Non, on a pratiqué la voile dans la famille depuis toujours, mais vraiment en loisir et de façon en croisière, etc. Pas du tout de compétition.
Tout seul t'y intéresses. T'avais quel âge quand vraiment t'es...
J'étais étudiant, donc j'avais entre 18 et 22 ans. Exactement.
Ouais.
Je me suis mis à ce moment-là sérieusement. Donc voilà, 2000, l'Erika, et puis après des projets divers de courses, une agence de marketing sportif que nous avons créée qui s'appelle EOL. Et au sein de l'agence, nous avons imaginé ce qui est devenu la plus grande course de voile en France en nombre de bateaux.
La Route du Rhum ?
Non, le Tour de Belle-Île.
Ah, je...
Voilà, le Tour de Belle-Île.
C'est vrai que c'est pas très national.
le Tour de Belle-Île, créé en 2008. Et donc, c'est devenu assez rapidement l'événement pour tous, un grand pro-am. Et on retrouve des grands bateaux qui font justement le Vendée Globe, la Route du Rhum et autres, aux côtés de tous les amateurs.
Moi, je voyais déjà plus haut pour toi. Hein. Tu sais tout de suite, la route de... j'ai imaginé la Route du Rhum.
C'est un autre format.
Tiens,
c'est un autre format.
Tu l'as fait. De toute façon, tu l'as fait, la Route du Rhum. Alors, la Route du Rhum, en 2018, voilà. Non ?
Exactement, l'année dernière. La dernière Route du Rhum.
Je suis bien renseigné. Hein.
Bah, heureusement. Et donc, voilà. Donc, EOL, le Tour de Belle-Île. Et puis, après, on a pas mal voyagé. On a passé une année à Shanghai, en Chine, pour des projets d'entrepreneurs.
Et Shanghai, t'as aimé ?
Alors, ça a été aussi un élément...
Parce que j'ai vécu à Shanghai, moi.
Ben voilà. Mais j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé une très grande, une belle communauté française.
Oui, mais est-ce que tu t'y sentais bien ou pas ?
Ah, bah alors après, il y a le côté nature, environnement.
Et parce ça, que ça la pollution, j'ai du mal à respirer à Shanghai.
Ouais,
vraiment beaucoup. Hein.
Ouais, tout à fait. Bah, ça a été vraiment un très gros sujet. Bah, du coup, pour expliquer aux auditeurs, tous les matins, quand on se réveille, on regarde l'app de pollution, voir quel indice
bien
il
sûr,
y a.
Même pour sortir et même pour laver ses vitres.
En fait, exact.
Nous, on les lavait le matin. Et le soir, à un moment, on a abandonné l'idée. On s'est dit, on va arrêter de les laver parce que ça ne sert à rien.
Exactement.
C'était assez incroyable.
Ouais, exactement. Donc, c'est ça, la vie à Shanghai. Mais en même temps, c'est trépidant. Il y a une énergie de fou, des gens hyper motivés. Donc, on a l'impression qu'on peut déplacer des montagnes. Donc, voilà. Donc, une année absolument incroyable. Puis, on a pas mal voyagé après par la suite.
Et tu naviguais un peu pendant cette année ou pas du tout ?
J'ai un petit peu navigué, mais quasiment pas.
Mais tu n'es pas le marin qui a besoin de naviguer comme beaucoup ?
Si, ça m'a manqué.
Ça manquait quand même.
Ça manquait.
Ouais. Bon, et donc ce bateau, puisque je t'ai coupé, parce qu'en fait, on a oublié de faire le début de l'emploi. Normalement, le début, c'est que tu me parles de toi, et là, j'ai switché direct.
Bah voilà.
Bon, bah donc,
j'en ai parlé.
Donc, tu m'as parlé de toi. Donc là, on a fait la parenthèse, toi.
Exactement. Donc, l'année à Shanghai a été un élément important dans le projet You Eat Again, parce que c'est pendant cette année-là que j'ai été mis en contact avec l'ancien propriétaire du trimaran. Et donc, ce trimaran abandonné, on décide d'investir, de le racheter, d'investir dedans pour se dire qu'il faut le remettre à niveau. Et là, on le fait d'une façon, en entrant en économie circulaire, de façon responsable, en essayant de réemployer un maximum de matériaux et de matériel existants pour éviter d'acheter neuf. Donc, c'est le principe de l'économie circulaire. Tu as
fait du crowdfunding pour le faire ou pas ?
J'ai fait une petite campagne, mais avant la Route du Rhum, pour compléter un petit peu le budget. Mais ça suffisait pas. Ça parle de montants très importants. Pas le type de montant qu'on lève sur une plateforme de crowdfunding. Mais donc, voilà, on a divers partenaires financiers, investisseurs.
Ça n'a pas été trop compliqué de les démarcher, justement, ces partenaires-là ?
Si, c'est jamais... C'est toujours une partie difficile dans la vie d'un marin, dans la carrière d'un marin, c'est qu'il faut trouver son budget de sponsoring, de financement.
Surtout sur cette thématique un peu green, puisque tu savais que tu partais pas pour le gagner finalement.
Exactement.
Je pense quand on a un bateau qui est refait.
Je ne vends pas la victoire.
C'est ça.
C'est exactement
donc,
ça.
Donc c'est compliqué quand même un peu d'expliquer ça.
Oui, mais aujourd'hui.
Tu as un très beau message, moi je le trouve bien plus fort.
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le projet You Eat Again, il fait appel à d'autres valeurs. Pas des valeurs de compétition, de performance pure. Certes, il y a de la compétition, mais il y a dans la compétition aussi la fiabilité. Et c'est aussi le fait de montrer qu'on peut, en entrant en économie circulaire, être au service de la performance. Alors certes, ce n'est pas une performance absolue pour viser la première place, mais c'est une performance parce que le bateau navigue proprement, entre guillemets.
Ton bateau n'est pas dopé.
Ouais, c'est ça, mais on a mis énormément, y a énormément d'engagement pour justement... éviter d'acheter des nouvelles voiles. Par exemple, si on prend cet élément très symbolique sur un voilier, on a récupéré sur cette voile, on a récupéré 6 voiles existantes, d'autres bateaux qu'on a retaillés, adaptés aux miens pour que je puisse naviguer avec. Donc ça, c'est un élément symbolique fort. Mais après, il y a plein de pièces détachées, de moteurs, d'électronique, etc., qu'on essayait de trouver à droite, à gauche.
Et pendant ta course, tu n'as pas eu des problèmes ?
Non, il n'y a pas eu de problème. Alors, j'ai eu des problèmes techniques, mais pas du tout dû à
pas
ça.
Pas du tout lié à
non,
ça, oui.
Pas du tout lié à ça.
Comme finalement n'importe quel marin aurait eu
son bateau.
Exactement.
D'ailleurs, il y a eu, sur cette course-là, pour rappeler, sur la Route du Rhum, il y a eu un tiers de la flotte qui a abandonné. parce qu'on a eu des conditions dantesques. Dans ma catégorie, on était 6 bateaux. Il y en a 2 qui ont abandonné justement pour casse matérielle. Donc, les problèmes que j'ai eus n'étaient pas du tout liés à ça. Le premier problème, j'ai dû me faire une escale à La Corogne, m'arrêter, faire appel à 2 personnes de mon équipe technique pour m'aider à réparer. Je suis reparti très rapidement au bout de 6 heures. Et puis,
Ça a été une escale, en fait.
Tout à fait. Et puis après, deuxième problème, quelques jours plus tard, là, c'était plus ennuyeux. Je réparais de façon autonome en mer. J'étais au large de Madère et j'ai réparé. Mais après, j'ai
ça devait être tellement incroyable comme expérience.
Ouais, c'est effectivement assez engageant, comme on dit.
Du coup, tu étais suivi, puisque tout le monde savait que le bateau d'Hélène Marc-Culture reprenait...
Exactement, ouais, tout à fait. Donc, avec ce nom-là, ce nom de projet, Use It Again, ça intéressait pas mal de monde.
Comment tu faisais? Tu faisais des médias, toi, sur le bateau? Tu arrivais à capter des vidéos?
Les journées passent très, très vite. Il faut s'occuper du bateau, il faut s'occuper de soi. Donc, toujours essayer de le faire aller le plus vite possible et en sécurité parce que ces bateaux se retournent, hein, les trimarans. Donc, faut faire très attention. Toujours un peu cette épée de Damoclès.
Moi, je me connais, j'aimais bien retourner, dessaler. J'aimais bien dessaler quand j'étais en dériveur.
Voilà,
j'étais la seule à me marrer à dessaler.
Tu peux, hors dériveur, tu peux remettre le bateau toute seule.
Toute seule déjà, quoique moyen. Ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué.
Et là, sur un trimaran de 23 mètres, c'est compliqué.
Ouais, bon, j'aurais pas joué à dessaler alors.
Et du coup, faut être très vigilant. Donc, on est entre la performance et la sécurité. Et puis, après, il faut s'occuper de soi, il faut se reposer, il faut se nourrir. Et puis, il faut étudier la météo pour avoir la meilleure trajectoire possible. Il faut également donc faire du média. Et donc, ça consiste à prendre des photos et des vidéos.
Sponsors, tu dois alimenter ça aussi, forcément.
Bien sûr, bien sûr. Voilà, on veut faire vivre aussi, on veut partager l'expérience. C'est ça, c'est pas qu'une histoire.
Pour encourager les gens aussi à faire comme ça,
exactement,
à devenir responsable.
Donc, on partageait la course, partageait nos valeurs. Et donc, pas mal de photos, de vidéos envoyées et compressées avant d'être envoyées, puisqu'on est en communication satellite. Donc, c'est aussi un gros coût dans un budget, un petit budget comme moi. J'avais sur la route du Rhum. Donc, il faut être vigilant à tout ça et ça prend beaucoup de temps. Donc, les journées de 24 heures passent très vite. Mais c'est passionnant. C'est évidemment une expérience humaine la plus forte que j'ai jamais vécue.
Tu étais seule. Hein.
Oui, c'est ça. C'est le principe de la route du Rhum. C'est une transatlantique en solitaire. Ouais, tout à fait. De Saint-Malo à la Guadeloupe.
Je ne suis pas navigatrice, mais je crois que je vais m'y mettre parce que ça, j'adorerais, tu vois. Côté sauvage, être seul sur un bateau, loin de tout le monde. Ouais,
mais c'est technique, c'est compliqué. Puis sur nos bateaux,
alors nous, dessalé.
On choisit bien le bateau. Mais donc, ça a été une expérience très forte. On a bien mis en avant la campagne Use It Again qu'on avait créée donc, deux, trois ans
auparavant. En fait, tu as commencé à être ambassadeur quand même de l'économie circulaire en faisant
ça. Oui, complètement, exactement.
J'ai
eu le soutien de Brune Poirson, du ministère. Ils ont apprécié effectivement notre engagement. Donc, elle est venue de façon tout à fait sympathique, amicale sur le bateau pendant plusieurs heures avant la veille du départ. Et effectivement, on a commencé à être connus pour notre engagement sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'on arrive aussi avec...
On, c'est toi et ta femme.
Exactement, avec Aurélie, avec qui je collabore.
Qui est en dehors de la capsule actuellement, avec le bébé.
Voilà, la petite dernière, Jodie, 3 mois.
Et donc tous les deux, vous avez monté ce projet pour devenir maintenant... Et donc maintenant, qu'est-ce que vous faites depuis cette route du Rhum?
Du coup, l'objectif...
Un bébé, ok.
Ok.
Ça, c'est fait.
Mais l'objectif, c'est vraiment de continuer à sensibiliser, puisque la mission numéro une, c'est vraiment l'éducation, la sensibilisation à l'économie circulaire, à la protection des ressources, et notamment des océans, en ce qui nous concerne. Puisqu'il faut rappeler que les océans produisent plus de 70% de la production d'oxygène dont on a besoin sur Terre. Et les gens pensent souvent aux arbres, c'est bien.
Mais c'est plutôt
les océans, exactement. Même si les arbres, c'est très important.
Les deux, il faut
préserver l'ensemble. Donc, on a tendance à l'oublier. Puis après, les hommes qui sont terriens ont plutôt tendance à délaisser dans pas mal de cultures, à délaisser les océans et à jeter effectivement leurs déchets, leurs détritus. Alors, avant, ce qui se faisait de façon naturelle avec des déchets biodégradables, issus des cultures et autres, c'était quelque chose de tout à fait normal, on va dire. Mais le problème maintenant, c'est que depuis quelques dizaines d'années, le plastique est intervenu dans tout ça. Donc, on retrouve beaucoup, effectivement, les habitudes de vie, finalement, de populations très rurales, pauvres aussi. Je pense à l'Asie, à l'Afrique. Eh bien, ont évolué avec ce plastique entre les mains. Donc, ils ne jettent plus des épluchures de légumes, des fruits, etc. à l'eau, mais il y a du plastique dedans. Donc, ça, c'est quelque chose de très fort.
Quand on voit tous les animaux marins qui se retrouvent coincés dans des sacs de plastique, moi, ça me prend le cœur.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai eu la chance, il n'y a pas longtemps, de nager avec des requins-baleines dans le sud des Caraïbes. Et effectivement, autour de ces requins-baleines qui donc avalent du plancton, se nourrissent de plancton, il y avait toutes sortes de déchets de plastique.
Même pour nous, après, derrière, quand on consomme les poissons.
On est au bout de la chaîne alimentaire.
On est nos propres pollueurs, en fait.
Donc, comme disait Nicolas Hulot ce matin en conférence, effectivement, on a notre propre ennemi, c'est
nous. L'homme. Voilà. Bien sûr. Mais ça a toujours été, en fait. Hein.
Exactement. Donc là, on est dans une phase cruciale. Donc, je suis ravi d'être ici à Change Now parce que effectivement, ça porte bien son
c'est
nom.
Un salon, hein. Ouais, c'est un beau salon. Franchement, on a eu Santiago Lefebvre. On l'a diffusé déjà. Donc voilà, et ça nous a inspiré. Donc là, on est ravis d'être en live aussi et de t'avoir.
Ouais. Non, c'est une bonne occasion. C'est vraiment beaucoup.
Et du coup, donc aujourd'hui, vous démarchez. Quel est ton business du coup au niveau des marques, au niveau
Donc aujourd'hui, effectivement, je parlais de cette mission de sensibilisation d'éducation qui est très importante parce que, donc, je rappelle, effectivement, les scientifiques disent qu'effectivement, il faut continuer à travailler et à éduquer les populations, pas que en France, pas que à Paris et ailleurs, mais partout dans le monde, puisque effectivement, il faut que les hommes arrêtent de jeter, de polluer et de consommer du plastique. Ça, c'est une première chose. Après, il y a une mission technique dans laquelle on va rentrer au fur et à mesure pour effectivement trouver des nouvelles solutions qu'on va pouvoir mettre à bord du bateau avec le côté lab, R&D. On va tester de nouvelles choses, des fibres, pour remplacer la fibre de carbone par de la fibre de bambou, par exemple, des choses sur certaines pièces, des choses comme ça. Et donc, nous, l'idée avec ce bateau et le porte-étendard de notre action, c'est un média, en fait, le Trimaran Use It Again, donc un grand média, un large média, à travers lequel des marques et des partenaires peuvent s'afficher, ça c'est une chose, mais surtout c'est soutenir l'ensemble de ce projet, de cette campagne Use It Again, donc avec cette mission d'éducation, faire avancer le sujet, être influent, parce que moi après je parle beaucoup, donc j'ai parlé ici à Change Now, et puis je parle beaucoup en entreprise, lors de conférences, pour être
plus
influent.
Tu as le pendant sportif, tu as le pendant engagé, je pense que c'est intéressant, puisque c'est ce côté authentique, tu es suivi pour tes valeurs, tu es suivi aussi par les navigateurs, je pense que tu encourages aussi beaucoup.
Après,
les mentalités changer ou pas beaucoup encore?
Si, un peu, effectivement. Clairement, il y en a qui ont conscience de ça. Il y a un petit groupe de navigateurs qui a conscience de ça, qui aimerait avancer. Maintenant, faut dire les choses telles qu'elles sont, être honnête. Les bateaux sont magnifiques quand ils naviguent à la voile, mais c'est effectivement des tonnes de carbone et les voiles, c'est de la chimie. Donc maintenant, faut savoir ce qu'on fait.
Mais c'est bien de remettre. C'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, en fait. On n'a pas l'impression que c'est hyper pollueur. Donc, quand on les voit, on se dit,
c'est beau. Voilà,
moi, ça me rappelle quand c'est fait en bois, main. C'est utopique, quoi.
Il y a des bateaux classiques comme ça en bois qui sont superbes, effectivement, moins polluants. Il y en a qui vont vite, mais bon.
Voilà, c'est pas eux qui vont gagner, quoi. De toute façon, en même temps, comme toutes les nouvelles technologies qu'on donne, même pour les athlètes qui courent, tout ça, c'est fait avec des matières pas très nobles.
Exactement. Donc, il faut trouver des substituts, au carbone issu du pétrole, etc. Et ça, on peut trouver. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment, à travers Use It Again, de prendre la parole, justement, à travers ces grands défis sportifs, ces grandes courses au large. Donc là, il y a de la médiatisation, il y a du monde qui est embarqué, des partenaires qui sont embarqués autour de là. Donc, c'est des histoires humaines très fortes, très clairement. Et puis, c'est des opportunités de visibilité, certes, mais surtout de prise de parole. Donc, pour une entreprise, c'est très intéressant, puisque je vais aller parler en entreprise, après auprès de collaborateurs, dans l'écosystème, les clients, les fournisseurs, etc. Et puis, l'idée, c'est d'être influent, se dire que on est dans la transition doit se faire maintenant. Parce que le projet Use It Again, c'est un projet d'entrepreneur, comme tu l'as compris. Et donc, moi, les difficultés que je rencontre à rentrer dans cette économie circulaire, ce sont les difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise pour pareil faire cette transition.
Et tu te rends compte que ça devient vraiment un enjeu majeur pour les entreprises?
Ouais, là clairement.
Là, moi, je me rends compte depuis 2 ans, d'ailleurs même depuis le lancement de l'empreinte qui est de plus en plus écouté, et on est même de plus en plus sollicité par des grands groupes pour venir dans l'empreinte. Donc nous, on fait attention quand même à qui on prend, enfin au profil, on les sélectionne rigoureusement, etc. Mais en fait, et même des boîtes. Là, on avait le directeur RSE de Coca-Cola. On se dit Coca-Cola, mon Dieu, pas du tout. En fait, la personne qui est en poste au niveau de la RSE, c'est quelqu'un de profondément engagé. Et en fait, ça qui est dingue, c'est que les boîtes ont réussi à prendre conscience de, comme elles n'arrivaient pas elles-mêmes à changer,
après,
ont pris des gens pour les faire changer, elles ont réussi à...
Mais après, il y a aussi la pression. Alors, il y a leur conscience directe. Et puis après, il y a aussi la pression du consommateur, très clairement.
Bien sûr. Mais en même temps, heureusement.
Exactement.
Heureusement que les consommateurs font pression.
Exactement. On a, en tant qu'individu, on a ce pouvoir à travers
nos actes
d'achat.
C'est ce pouvoir d'achat qui nous permet d'avoir un pouvoir et de l'exercer. Donc, continuons à faire changer ça et à encourager les marques à faire mieux.
Exactement. C'est, effectivement, moi, quand je parle, voilà, en entreprise, je parle souvent de l'individu, parce qu'effectivement, une entreprise, c'est un groupe de femmes et d'hommes qui travaillent ensemble pour une mission commune, très bien. Mais voilà, ce sont des individus d'abord. Et effectivement, faire changer l'individu en tant que personne et se dire, tiens, quand il va rentrer chez lui, il va dire, OK, maintenant, on fait différemment. C'est aussi derrière faire changer une entreprise, peut-être. Mais c'est d'abord toucher l'individu. Et je pense que si on ne touche pas l'individu d'abord seul, derrière, ça ne peut pas marcher en entreprise.
C'est l'offre et la demande. Donc, de toute façon, si la demande n'est pas là...
Ouais, c'est ça. Mais effectivement, c'est avoir des gens convaincus.
Tout à fait.
C'est dire, OK, maintenant, on doit vraiment travailler...
Oui, mais comme les mentalités des grosses entreprises, en général, c'est quand même axé business. La demande, c'est nous, c'est les consommateurs.
Tout à fait.
Donc, c'est aussi pour ça que ça peut les aider à changer. C'est que s'il n'y a plus de business, et d'ailleurs, on le voit. J'avais entendu un reportage sur, je crois que c'était Herta, qui du coup, maintenant, va sur les protéines végétales beaucoup plus, parce qu'en fait, il n'y a plus de business sur les protéines animales. Donc, c'est quand même complètement dingue. On a un vrai pouvoir. Donc, exerçons-le, tu vois.
Exactement. C'est ça, tout à fait. Je partage tout à fait ce point de vue. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on avance avec Use It Again. Donc, là, on est dans une deuxième phase, on va dire, après avoir été un petit peu plus connu et découvert avec la route du Rhum. Maintenant, on a de plus en plus de contacts, bien sûr. On cherche des partenaires activement.
Et tu veux refaire une course ?
Oui, il y a la Transat, The Transat CIC bientôt, qui part de Brest.
Avec quel bateau ? Avec toujours le
trimaran.
Il va bien ? Enfin, comment, du coup, tu l'as retapé ?
Il va très, très bien.
Comment va-t-il ?
Il va très bien.
On n'a pas pu l'amener avec nous dans la capsule, c'est un peu compliqué.
Voilà. Mais
j'aurais bien aimé, je suis déçue. Pas au grand palais.
Avec un mât de 30 mètres, ça aurait été un peu...
Désolée, j'arrive avec mon trimaran.
Mais non, il va très bien. Il se fait bichonner dans un chantier à Vannes, au sec. Et voilà, on fait le minimum de travaux, le minimum d'impact possible. Et on le remet à l'eau vers la fin février pour se préparer.
C'est bientôt.
Oui, c'est bientôt. Et se préparer pour le départ qui est
début. Enfin, voilà, la diffusion du podcast, du coup, sera passée. J'espère qu'on aura des photos avant.
Bah, bien sûr.
Moi,
je veux
tout recevoir.
Exactement. On t'en verra tout
donc,
ça.
Donc, ça, c'est le gros projet du coup 2020.
Voilà, The Transat Brest-Charleston, qui est en Caroline du Sud. C'est une très grosse transat. C'est plus long que la route du Rhum. Ça va faire à peu près 4000 milles pour ma catégorie de bateau. Et donc, ça va être très engageant. Et donc, on propose aux entreprises, aux marques de nous rejoindre, petites et grandes. On a des petits partenaires, on a des plus grands partenaires.
Maintenant, en plus, c'est déjà rodé. Tu as déjà fait une course, donc tu sais un petit peu comment
il y a beaucoup de choses. Exactement. Il y a beaucoup de choses. On connaît bien. Ça fait justement, à travers notre agence, ça fait 20 ans qu'on est, ou presque, qu'on est sur ces sujets-là de médiatisation, d'activation et de retombées. Donc, ça, c'est des choses qu'on connaît bien. Et on travaille avec un petit budget. Donc, c'est aussi des opportunités pour les marques de se faire connaître. La dernière route du Rhum.
Tu les sélectionnes, hein, tu regardes bien tes sponsors, forcément.
Bah oui, on essaye. Maintenant, on ne peut pas non plus être trop difficile, mais quand même. La dernière route du Rhum, on a travaillé avec une entreprise qui, malheureusement, n'est plus là aujourd'hui, mais qui s'appelait Remade. Remade, c'était un des gros acteurs de l'iPhone reconditionné dans
d'accord,
le monde.
D'accord, oui. Donc, déjà,
d'ailleurs, qui faisait peur à Apple. J'avais rencontré des gens d'Apple et dit, mais c'était incroyable. Et voilà. Et malheureusement, la boîte a coulé il y a quelques mois, mais voilà. Il y a d'autres acteurs
Il y a Lozac qu'on a eu aussi dans l'empreinte.
Voilà, ils sont plusieurs.
Et qui étaient d'abord sur Apple uniquement et là qui ont ouvert le marché. Donc je pense que c'est plutôt bon signe.
Oui, exactement.
On pourra peut-être aller les voir. Bon, après, c'est une start-up. Voilà. Donc à voir s'ils n'ont pas eux aussi besoin
de financement.
De financement.
Donc, voilà, une bouteille à la mer est lancée, exactement.
De Rome. Mais on n'est plus sur la route du Rome.
On ira chercher autre chose aux États-Unis.
Est-ce que tu as envie de rajouter des choses ?
Alors effectivement, donc après cette transat en mai, il y a la transat retour dans l'autre sens, donc dans le sens ouest-est, qui est une transat en équipage qui s'appelle Québec-Saint-Malo, qui part donc de Québec.
De Québec et qui va donc à Saint-Malo. Voilà.
Voilà, donc en équipage, ça sera le mi-juillet, et ça c'est encore une belle aventure.
Donc en fait, tu pars de mars à février ?
Alors pas de mars, parce que
mai
à juillet, ouais.
Oh, bon,
et puis au milieu, on fera des RP à New York, normalement, pour nos partenaires.
J'ai choisi le pire endroit pour faire des RP.
Oui, mais après, ça s'organise. C'est pas si simple que ça.
Ah,
et puis, j'irai parler dans quelques entreprises, peut-être au lycée français de New York aussi. Voilà, tout ça, c'est un peu dans les tuyaux. Se met en place et donc c'est une belle année 2020 et on est en train de préparer une autre phase plus forte encore avec un partenaire investisseur qui va nous donner les moyens justement d'avancer à long terme. Donc, et réunir toutes sortes d'acteurs, justement, et puis peut-être aussi avoir même l'opportunité de donner la voix et la visibilité à des actions, voilà, des petites boîtes, des assos qui seront sélectionnées. Et ça, c'est, voilà, qui auront notre soutien du Use It Again, une sorte de label. Donc, tout ça se met en place. Je reviendrai en parler.
Ah, bah, avec plaisir, on fera un Romain Pierre 2.
Exactement.
On l'appellera Use It Again.
Voilà, bis.
Bis. Again. Comme tomorrow.
Voilà. Et donc, non, voilà. Donc, c'est une année de transition très forte. Gros programme sportif, beaucoup d'engagement, beaucoup de préparation.
Tu te prépares du coup, toi aussi, physiquement.
Ouais, ouais, exactement.
Ouais, ça va être beaucoup. Ouais,
c'est très. Ouais, c'est des bateaux très engageants. T'as pas le droit de pas arriver très en forme. C'est ça. C'est vraiment c'est un engagement de nuit et jour. Et effectivement, comme je dis souvent, c'est un sport très particulier parce qu'il n'y a pas de temps de repos, quoi, en fait. Donc, t'es parti, quand tu pars pour 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas de temps mort. C'est toujours, voilà, le bateau, il est tout. Donc, tu ne te reposes pas comme peut-être qu'un marin.
Et puis, tu dors pas la nuit, tu n'arrives pas à faire un sommeil profond,
non,
t'as pas de sommeil.
Il n'y a pas de nuit et jour. C'est
en
le
plus,
principe.
Là, en plus, avec le bébé, donc bébé plus bateau, je pense que tu vas nous
rester. Je me prépare au sommeil polyphasique, comme on dit.
Non, on est pas mal.
Voilà. Mais non, c'est surtout que les journées durent 24 heures, on fait des micro-sommeils. Mais bon, voilà, on rentre dans un rythme et c'est assez plaisant. Mais d'ailleurs, je rappelle que l'homme, naturellement, avait un sommeil polyphasique.
Oui.
Le fait d'avoir une nuit est quelque chose, voilà, et d'avoir un temps de sommeil long comme ça est quelque chose d'assez récent dans notre civilisation.
J'aime bien ce niveau d'invention de l'homme, finalement, là, ce sommeil long, très long même.
Oui, mais on se reposait plusieurs fois dans la journée, c'était beaucoup plus efficace.
Ouais, peut-être.
Voilà.
Bah, écoute, Romain, je suis ravie de t'avoir eu dans l'empreinte, et donc peut-être un again à ton retour.
Oui, j'espère, je te raconterai
on fera
ça.
Un
merci, Alice.
2.
Exactement.
Merci d'être venu. Bah, en fait, tu étais déjà là, donc c'est moi qui suis venu à toi, on va dire. Donc merci, Alice, d'être venue au Grand Palais. M'interviewer.
C'est vraiment sympa.
Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Podinstall, Deezer, Spotify, toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Romain. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.